Paris, livre 2, chapitre 4. Dès 1h30, Pierre était rue d'Ulm, où Berthe Roy habitait une assez vaste maison que l'État lui avait donnée pour qu'il y installât un laboratoire d'études et de recherches. Et tout le premier étage se trouvait ainsi aménagé en une grande salle que l'illustre chimiste aimait parfois ouvrir à un public restreint d'élèves et d'admirateurs, devant lequel il parlait, faisait des expériences, exposait ses découvertes et ses théories nouvelles. Pour la circonstance, on rangeait quelques chaises devant la longue et massive table couverte de bocaux et d'appareils. Le fourneau était derrière, tandis que des vitrines encombrées de fioles, d'échantillons de toutes sortes, entouraient la pièce. Du monde occupait déjà les chaises, des confrères du savant surtout, quelques jeunes gens, même des dames et des journalistes. On restait d'ailleurs en famille, on saluait le maître, on causait avec lui, comme dans l'intimité. Tout de suite, lorsque Berthe Roy aperçut Pierre, il s'avança, lui serra la main, le conduisit devant la table pour l'asseoir à côté de François Froment, arrivé un des premiers. Le jeune homme terminait alors sa troisième année à l'école normale voisine et il n'avait qu'un pas à faire quand il venait chez son maître, chez celui que, très respectueusement, il regardait comme le plus solide cerveau de l'époque. Pierre fut ravi de la rencontre, car ce grand garçon, aux yeux si vifs, dans sa haute phase d'intellectuel, lui avait laissé une impression de charme profond lors de sa visite à Montmartre. Le neveu, du reste, fit à l'oncle un accueil cordial, d'une libre expansion de jeunesse, heureuse aussi d'avoir des nouvelles de son père. Berthe Roy commença. Il parlait d'une façon familière, très sobrement, avec des trouvailles de mots. Il résuma d'abord les recherches, les travaux déjà considérables qu'il avait faits sur les matières explosives. En riant, il contait qu'il manipulait parfois les poudres à faire sauter le quartier. Mais il rassura son public, était prudent. Puis, il finit par s'occuper de la bombe de la rue Godot de Mauroy, qui révolutionnait tout Paris depuis quelques jours. Les débris venaient d'en être soigneusement examinés par des experts. On lui en avait apporté à lui-même un fragment pour qu'il donnât son avis. Cette bombe paraissait assez mal fabriquée, chargée de petits morceaux de fer, d'un allumage à mèche enfantin. Seulement, l'extraordinaire, c'était la formidable puissance de la cartouche centrale, qui, toute petite qu'elle devait être, avait produit des effets foudroyants. On se demandait à quelle force calculable de destruction on arriverait si l'on décuplait, si l'on centuplait la charge. Et l'embarras commençait. Les discussions achevaient d'obscurcir le problème dès qu'on voulait se prononcer sur la nature de la poudre employée. Sur les trois experts, l'un reconnaissait simplement la dynamite, tandis que les deux autres, sans d'ailleurs s'entendre, croyait à des mélanges. Quant à lui, très modestement, il s'était récusé les fragments qu'on lui avait soumis, portant des traces en vérité trop légères, pour qu'on se livrât à une analyse. Il ne savait pas, il ne voulait pas conclure. Mais sa conviction était qu'on se trouvait en face d'une poudre inconnue, d'un explosif nouveau dont la puissance dépassait tout ce qu'on avait pu concevoir jusque-là. Il imaginait quelques savants solitaires, ou bien un de ces inventeurs naïfs à la main heureuse, couvrant dans le mystère la formule de cette poudre. Et c'était à ceci qu'il voulait en venir, aux nombreux explosifs ignorés encore, aux prochaines trouvailles qu'il pressentait. Lui-même, au cours de ses recherches, en avait soupçonné plusieurs, sans avoir l'occasion ni le temps de pousser l'étude dans ce sens. Il indiqua même le terrain à fouiller, la marche à suivre. L'avenir, pour lui, était là sans doute. Et dans une péroraison très large, très belle, Il dit qu'on avait déshonoré jusqu'à présent les explosifs en les employant à des œuvres imbéciles de vengeance et de désastre, tandis qu'il y avait peut-être en eux la force libératrice que la science cherchait, le levier qui soulèverait et changerait le monde lorsqu'on les aurait domestiqués, réduits à n'être plus que les serviteurs obéissants de l'homme. Pierre, pendant toute cette causerie, d'une heure et demie à peine, sentit François près de lui se passionner, frémir aux vastes horizons que le maître ouvrait. Lui-même venait d'être violemment intéressé, car il lui était impossible de ne pas saisir certaines allusions, de ne pas établir certains rapprochements entre ce qu'il entendait et ce qu'il avait deviné des angoisses de Guillaume, sur le secret que ce dernier redoutait si fort de voir à la merci d'un juge d'instruction. Aussi, lorsqu'ils allèrent, François et lui, serrer la main de Berthe Roy avant de partir ensemble, dit-il avec intention « Guillaume regrettera bien de n'avoir pas entendu développer de si admirables idées. » Le vieux savant se contenta de sourire. « Bah, résumez-lui ce que j'ai dit. Il comprendra. Il en sait plus que moi là-dessus. » Dans la rue, François, qui gardait devant l'illustre chimiste la muette attitude d'un élève respectueux, finit par déclarer, au bout de quelques pas faits en silence, « Quel dommage qu'un homme d'une si large intelligence, affranchi de toutes les superstitions, résolu à toutes les vérités, ait consenti à se laisser classer, étiqueter, enfermer dans des titres et dans des académies. Et combien nous l'aimerions davantage s'il émargeait moins au budget et s'il avait les membres moins liés de grands cordons. Que voulez-vous? Dit Pierre conciliant. Il faut vivre. Puis, au fond, je crois bien qu'il est libéré de tout. » Et comme à ce moment ils arrivaient devant l'école normale, le prêtre s'arrêta, croyant que son jeune compagnon allait y entrer. Mais celui-ci leva les yeux, regarda un instant la vieille demeure. « Non, non, c'est jeudi, je suis libre. Oh, nous sommes très libres, trop libres. Et j'en suis heureux, car cela me permet souvent de monter chez nous, à Montmartre, pour me rasseoir et travailler à mon ancienne petite table d'écolier. Là seulement, je me sens le cerveau solide et clair. » Admis à la fois à l'école polytechnique et à l'école normale, il avait opté pour cette dernière, où il était entré premier dans la section scientifique. Son père désirait qu'il s'assurât un métier, celui de professeur, quitte à rester indépendant, à ne s'occuper que de travaux personnels, lors de sa sortie de l'école, si la ville lui permettait. Très précoce, il terminait sa troisième année, il préparait le dernier examen. Et c'était cet examen qui lui prenait toutes ses heures. Il n'avait d'autre repos que ses voyages à pied à Montmartre et de longues promenades dans le jardin du Luxembourg. Machinalement, François s'était mis en marche vers ce jardin, où Pierre le suivit en causant. L'après-midi de février y était d'une douceur printanière. Un pâle soleil dans les arbres noirs encore, un de ces premiers beaux jours qui font poindre les petites pousses vertes des lilas. La conversation était restée sur l'école. « Je vous avoue, disait Pierre, que je n'en aime guère l'esprit. Certes, il s'y fait d'excellentes besognes, et pour former des professeurs, le seul moyen est évidemment de leur apprendre le métier en les bourrant des connaissances requises. Le pire est que tous, instruits et élevés pour le professorat, ne restent pas dans le professorat. Beaucoup se répandent dans le monde, entrent dans le journalisme, s'emploient à régenter les arts, la littérature et la société. Et ceux-là, en vérité, sont le plus souvent insupportables. Après n'avoir juré que par Voltaire, les voici retournés au spiritualisme, au mysticisme, la dernière mode des salons. Le dilettantisme, le cosmopolitisme s'en sont mêlés. Depuis que la foi solide en la science est devenue chose brutale, inélégante, il croit se débarbouiller du professorat en affectant un doute aimable, une ignorance voulue, une innocence apprise. Leur grande crainte est de sentir l'école, et ils sont très parisiens. Ils risquent la culbute et l'argot, font des grâces de jeunes ours savants, dévorés du désir de plaire. De là, les flèches sarcastiques dont ils criblent la science, eux qui ont la prétention de tout savoir, et qui retournent par distinction à la croyance des humbles, à l'idéalisme naïf et délicieux du petit Jésus de la crèche. François s'était mis à rire. Oh, le portrait est un peu chargé, mais c'est cela, c'est bien cela. J'en ai connu plusieurs, continua Pierre qui s'animait, qui s'oubliait. Et chez tous, j'ai trouvé cette terreur d'être dupe, aboutissant à la réaction contre tout l'effort, tout le travail du siècle. Dégoût de la liberté, méfiance devant la science, négation de l'avenir. Monsieur Homais est pour eux l'épouvantail, le comble du ridicule. Et c'est la crainte de lui ressembler qui les jette à cette élégance de ne rien croire ou de ne croire que l'incroyable. Sans doute, monsieur Homais est ridicule, mais lui, du moins, reste sur un terrain solide. Et pourquoi donc ne braverait-il pas le respect humain en disant des vérités, même à monsieur de la Palisse, lorsque tant d'autres le bravent et s'en font gloire en s'agenouillant devant l'absurde? S'il est devenu banal que deux et deux fassent quatre, pourtant ils font bien quatre. Le dire, cela est encore moins sot et moins fou que de croire par exemple au miracle de Lourdes. Étonné, François regardait le prêtre. Celui-ci s'en aperçut, se modéra. Mais quand même, toute une désolation, toute une colère sortait de lui quand il parlait de la jeunesse intellectuelle, telle qu'il se l'imaginait dans sa crise de désespérance. De même qu'il avait eu pitié des travailleurs mourant de faim, là-bas, au quartier de misère, de même ici, il était plein d'un mépris douloureux pour les jeunes cerveaux manquant de bravoure devant la connaissance, retournant à la consolation d'un spiritualisme mensonger, à la promesse d'une éternité de bonheur, dans la mort souhaitée, exaltée. N'était-ce pas l'assassinat même de la vie, la pensée lâche de ne pas vouloir la vivre pour elle-même, pour le simple devoir d'être et de donner son effort? Toujours le moi se faisait centre, toujours l'individu exigeait d'être heureux par soi et en soi. Ah, cette jeunesse qu'il rêvait vaillante, acceptant la tâche d'aller toujours à plus de vérité, n'étudiant le passé que pour s'en libérer et pour marcher à l'avenir, comme il se désolait de la croire retomber dans les louches métaphysiques, par lassitude et paresse, peut-être aussi par surmenage d'un siècle finissant, trop chargé de besogne humaine. François s'était remis à sourire. « Mais, dit-il, vous vous trompez, nous ne sommes pas tous ainsi à l'école. Vous ne semblez connaître que les normaliens de la section des lettres. Vous changeriez sûrement d'avis si vous connaissiez les normaliens de la section des sciences. Chez nos camarades littéraires, il est très vrai que la réaction contre le positivisme se fait sentir et qu'ils sont hantés, eux aussi, par l'idée de la fameuse banqueroute de la science. Cela tient sans doute un peu aux maîtres qu'ils ont, aux néo-spiritualistes et aux rhétoriciens dogmatiques entre les mains desquels ils sont tombés. Et cela tient plus encore à la mode, à l'ère du temps qui veut, comme vous le dites très bien, que la vérité scientifique soit mal portée, sans grâce, d'une brutalité inacceptable pour les intelligences distinguées et légères. Un garçon de quelque finesse et qui veut plaire est forcément acquis à l'esprit nouveau. « Ah, l'esprit nouveau !» interrompit Pierre dans un cri qu'il ne put retenir. « Il n'a pas l'innocence d'une mode passagère, il est une tactique, et terrible, tout un retour des ténèbres contre la lumière, de la servitude contre l'affranchissement des esprits, contre la vérité et la justice. » Puis, comme le jeune homme le regardait une seconde fois, de plus en plus étonné, il se tut. La figure de Monseigneur Martin s'était dressée, et il croyait l'entendre dans la chair de la Madeleine, s'efforçant de reconquérir Paris à la politique de Rome, à ce prétendu néo-catholicisme qui acceptait de la démocratie et de la science ce qu'il pouvait en faire sien pour les détruire. C'était la suprême lutte. Tout le poison versé à la jeunesse partait de là. Il n'ignorait pas les efforts faits dans les établissements religieux, afin d'aider à cette renaissance du mysticisme, avec l'espoir fou de hâter la déroute de la science. On disait que Monseigneur Martin était tout puissant à l'université catholique, et qu'il répétait à ses intimes qu'il faudrait 3 générations d'élèves bien pensants et dociles avant que l'Église redevînt la maîtresse souveraine de la France. « Pour l'école, je vous assure que vous vous trompez !» répéta François. « Il s'y trouve sans doute quelques croyants étroits, mais même dans la section des lettres, le plus grand nombre ne sont au fond que des sceptiques, d'une moyenne aimable et discrète, professeurs avant tout, bien qu'ils en aient un peu la honte, et dès lors gâtés par une ironie de cuistres émancipés, ravagés par l'esprit scientifique, incapables de créations originales. Certes, je serais bien surpris de voir sortir de leur rang le génie attendu, et ce serait à souhaiter qu'un génie barbare vint, sans lecture, sans critique, sans pondération et sans nuance, ouvrir à coups de hache le siècle de demain, dans une belle flambée de vérité et de réalité. Quant à mes camarades de la section scientifique, je vous jure que le néo-catholicisme, le mysticisme, l'occultisme et toutes les fantasmagories de la mode ne les troublent guère. Ils n'en sont pas à faire une religion de la science. Ils restent très ouverts aux doutes, mais ce sont, pour la plupart, des esprits très clairs, très nets et très fermes, passionnés de certitude, tout aux ailes de l'enquête, dont les forces continuent au travers du vaste champ des connaissances humaines. Ils n'ont pas bronché, ils demeurent des positivistes convaincus, des évolutionnistes, des déterministes, qui ont mis leur foi dans l'observation et dans l'expérience, pour la conquête définitive du monde. Lui-même s'animait, laissait déborder sa foi par les allées calmes et ensoleillées du jardin. Ah, la jeunesse, est-ce qu'on la connaît? Cela nous fait rire lorsque nous voyons toutes sortes d'apôtres se la disputer, la tirer à eux, la déclarer blanche ou noire ou grise, selon la couleur dont ils la veulent pour le triomphe de leurs idées. La vraie jeunesse, elle est dans les écoles, dans les laboratoires, dans les bibliothèques. C'est cette jeunesse-là qui travaille, et non la prétendue jeunesse des cénacles, qui apportera demain des manifestes, des extravagances. Naturellement, celle-ci fait beaucoup de tapage, on n'entend qu'elle. Mais si vous saviez l'effort continu, la passion des autres, de ceux qui se taisent enfermés dans leurs tâches. Et de cela, j'en connais beaucoup. Ils sont avec le siècle. Ils n'en ont rejeté aucun désespoir. Ils marchent au siècle prochain, résolus à poursuivre la besogne de leurs devanciers, toujours vers plus de lumière, vers plus d'équité. Allez leur parler à ceux-là de la banqueroute de la science. Ils hausseront les épaules, car ils savent bien que jamais la science n'a enflammé plus de cœur ni fait de plus prodigieuses conquêtes. Qu'on les ferme donc, les écoles, les laboratoires, les bibliothèques, qu'on change profondément le sol social. Alors seulement on pourra craindre d'y voir repousser l'erreur, si douce aux cœurs faibles, aux cerveaux étroits. Mais ce bel élan fut interrompu. Un grand jeune homme blond s'arrêta pour serrer la main de François, et Pierre fut surpris de reconnaître le fils du baron du Villard, Hyacinthe, qui d'ailleurs le salua très correctement. Les deux jeunes gens se tutoyaient. « Comment te voilà dans notre vieux quartier, en province ?»« Mon cher, je vais là-bas, derrière l'observatoire, chez Jonas. Tu ne connais pas Jonas ?»« Oh, mon cher, un sculpteur génial, qui en est arrivé à supprimer presque la matière. Il a fait la femme, une figure haute comme le doigt, et qui n'est plus qu'une âme, sans l'ignoble bassesse des formes. Totale pourtant, toute la femme dans son essentiel symbole. Et c'est grand, et c'est écrasant, une esthétique, une religion. François le regardait en souriant, pincé dans sa longue redingote, avec sa figure faite, sa barbe et ses cheveux taillés, qui lui donnait son air laborieux d'androgyne. « Et toi, je croyais que tu travaillais, que tu allais publier un petit poème bientôt. »« Oh, mon cher, créer me répugne tant. Un vers me coûte des semaines. »« Oui, j'ai un petit poème, la fin de la femme. » Et tu vois bien que je ne suis pas exclusive, comme on le dit, puisque j'admire Jonas, qui croit encore à la nécessité de la femme. Son excuse est la sculpture, un art si grossier, si matériel. Mais en poésie, ah, grand Dieu, en a-t-on abusé de la femme? N'est-il pas temps vraiment de l'en chasser, pour nettoyer un peu le temple des immondices dont ces tardes femelles l'ont souillé? C'est tellement sale, la fécondité, la maternité et le reste. Si nous étions tous assez purs, assez distingués, pour ne plus en toucher une seule, par dégoût, et si toutes mouraient infécondes, n'est-ce pas, ce serait au moins finir proprement. » Et sur ce trait, dit de son air languissant, il s'en alla, avec un léger dandinement des hanches, heureux de l'effet produit. « Vous le connaissez donc ?» demanda Pierre. « Il a été mon condisciple à Condorcet. J'ai fait toutes mes classes avec lui. Oh, un type si drôle. Un cancre qui étalait les millions du père du Villard jusque dans ses cravates, tout en affectant de les mépriser. Posant pour le révolutionnaire, parlant d'allumer au feu de sa cigarette la cartouche qui ferait sauter le monde. Schopenhauer, Nietzsche, Tolstoï et Ibsen réunis. Et vous voyez ce qu'il est devenu, un malade et un farceur. » Terrible symptôme, murmura Pierre, lorsque ce sont les fils des heureux, des privilégiés, qui, par ennui, par lassitude, par contagion de la fureur destructive, se mettent à faire la besogne des démolisseurs. François avait repris sa marche, descendant vers le bassin, où des enfants dirigeaient toute une escadre de bateaux.